Eh bien, bienvenue dans cette ressource justement pour mieux manager en télétravail. Du coup, nous avons Alex et Anne-Sophie. Donc, Alex, tu peux te présenter simplement.
Bonjour à tous. Alex Robinet, moi je suis le fondateur de Clint. On est une société de product et service design. Donc on accompagne nos clients à concevoir et imaginer des dispositifs digitaux qui remplissent des objectifs business. Donc on touche à plein de super supports.
Et vous êtes une équipe de combien maintenant?
On est 25 personnes et donc pour la petite histoire, on est depuis peu tous en télétravail.
Super. Et Anne-Sophie?
Bonjour, moi c'est Anne-Sophie, j'ai rejoint Digirox comme recruteuse de talents digitaux et je suis anciennement salariée chez Michelin et pour mon côté perso, je suis en télétravail depuis de très nombreuses années parce que j'ai commencé comme pigiste en étant journaliste et j'ai été une des premières salariées à l'époque où je travaillais chez Michelin à être en contrat de télétravail 2 jours par semaine. Donc là, j'ai complètement basculé en 100% télétravail.
Super. Et je me présente du coup. Ben moi, je suis Benoît de Montéclair, donc CTO de Digirox depuis 3 ans. Donc, on est maintenant une équipe de 11 personnes, tous à distance, effectivement, depuis le début. Alors, qui sont indépendants, pas salariés, mais qui font, enfin, notre organisation fonctionnerait très bien aussi avec des salariés. Donc, Clint, on t'a invité aujourd'hui parce qu'effectivement, tu as rédigé un e-book sur votre transformation, donc de passer d'un monde physique au monde distanciel. Est-ce que déjà tu peux juste revenir sur comment et pourquoi finalement, comment est venue cette réflexion et comment vous avez réfléchi à ce passage?
En fait, une des ambitions de la boîte de pouvoir se dire que tout le monde pouvait travailler d'où il le souhaitait, et ça depuis un bon moment. La problématique qu'on avait, c'était essentiellement de la faire accepter puisque ce télétravail-là, on voit déjà que certains salariés ont du mal à le faire accepter à leur manager. Bah, du coup, nous, on avait un peu du mal à le faire accepter à nos clients. Ce qui s'est passé, c'est qu'un peu avant le premier confinement, on s'est dit que avec ce confinement, justement, on allait être obligé de le faire et que plutôt de le faire juste pour ce premier confinement, ben, on le ferait pour toujours maintenant. Et donc, on a recalibré la façon de manager et la façon dont on envisageait le travail à l'agence en essayant d'imaginer un concept qui est celui du remote first. Donc vraiment de se dire que on est par défaut en remote, en télétravail, mais qu'on a quand même la capacité de se retrouver dans des lieux communs. Et donc on a par la même occasion refondu l'usage des bureaux pour les transformer en un lieu de retrouvailles plus qu'un lieu de travail au quotidien.
Excellent. Alors, du coup, finalement, peut-être on va commencer sur le premier point. Effectivement, ce sont justement toutes ces réunions. Alors, comment vous, finalement, vous faites aujourd'hui pour les réunions pour en faire finalement le minimum? C'est ce que tu mettais dans ton e-book.
En fait, les réunions, effectivement, c'est quelque chose qui peut être parfois assez dramatique dans les entreprises parce que, elles nécessitent la présence de manière synchronisée de plusieurs personnes. Cette présence-là n'est pas forcément utile. En tout cas, on remarque parfois que certains qui participent à des réunions ne sont pas forcément utiles tout au long de la réunion. Donc, on a déjà essayé de re-réfléchir à la manière dont on pouvait échanger entre nous et on a adopté une méthode de communication qui est une méthode asynchrone, c'est-à-dire qu'on essaie au maximum de finalement réaliser des petites vidéos, des livrables qui nous permettent de briefer notre entourage, en tout cas d'avoir des interactions et de les laisser consommer ces contenus-là quand ils le souhaitent, plutôt que de se retrouver tous en réunion et de pas forcément avoir du temps ou que ça s'intercale mal dans notre planning quotidien. Donc il y a déjà ça si on continue à faire des réunions, parce qu'on continue quand même à faire des réunions, même si on a mis en place cette logique asynchrone, on a acté plusieurs règles chez Clint, qui sont de 1, d'avoir forcément un ordre du jour, forcément avoir un timing bien défini de réunion, de manière à pas empiéter sur le reste de la journée de chacun des salariés. Et puis, finalement, une politique un peu un petit peu violente, qui est de dire qu'à partir du moment où on commence à être en retard à une réunion, ben, on n'a plus le droit d'y assister, de manière à ce que ça ne se reproduise pas, parce que très rapidement, 30 minutes pour 5 personnes, ben, ça commence à faire des quantités d'heures vraiment gâchées, et que dans une société comme la nôtre, ben, le temps a énormément de valeur, puisque c'est des cerveaux qui se posent sur des dispositifs à créer, et que ce temps-là, il est précieux. Donc, ordre du jour, cadrer les véritables motivations de se retrouver tous en synchronisé, ça doit avoir vraiment du sens, ça doit être vraiment important de devoir le faire. Sinon, effectivement, on passe sur une communication qui est plutôt asynchrone.
Je rebondis juste sur un point que tu as dit sur le fait que vous fassiez enfin, des vidéos qui sont donc pas synchro. Pourquoi c'est plus efficace que le texte, hein?
Alors, c'est pas plus efficace que le texte. Enfin, en tout cas, on remarque que l'écriture a de plus en plus d'impact dans la société. En fait, il y a plusieurs choses. J'y reviendrai. Mais globalement, le truc qui est intéressant avec la vidéo, c'est quand effectivement on a à partager des livrables. Donc, on utilise un outil qui s'appelle Loom, que vous devez peut-être connaître. Loom permet à la fois de capter la personne qui parle et en même temps de capter l'écran et d'en faire une vidéo sur laquelle on va pouvoir apposer des commentaires à un certain au fil de la vidéo, donc de contextualiser les retours fonction de l'étape où on se trouve dans la vidéo. Ça, c'est très précieux pour nous parce qu'on a beaucoup de livrables design, beaucoup d'éléments à partager et que ça permet d'expliquer un peu tout ça à travers un outil. Pour le texte, effectivement, c'est super important. En fait, on remarque quelque chose qui est absolument fou avec le télétravail, c'est qu'on abuse des outils de communication type Teams, Slack, etc. Et la valeur des mots, enfin, les mots ont encore plus de valeur. On n'a pas la capacité de ressentir tout à fait la manière dont a été écrit quelque chose. Enfin, on n'a pas tout l'aspect émotionnel qu'on peut avoir quand on est en face à face. Donc, les mots sont super importants. Les incompréhensions peuvent être multiples, donc il faut attacher une importance vraiment très particulière à l'écriture. Et du coup, on préfère justement cette communication asynchrone qui permet à chacun de se poser sur son propos et de ne pas obliger les autres à réagir de manière instantanée à ce qu'on dit, mais plutôt de tous être dans une démarche plus posée et de réflexion à tête reposée.
Anne-Sophie, toi, t'en penses quoi du coup par rapport à Digirox du coup?
Alors nous, chez Digirox, on a mis en place deux réunions. Une qui a plutôt une visée conviviale, c'est-à-dire qu'on a un café d'une demi-heure, un quart d'heure par semaine, où on sait que c'est un point de rendez-vous, mais ce n'est pas obligatoire. En revanche, on a une réunion hebdomadaire, et là, on est vraiment tous censés être là pour pouvoir échanger sur les objectifs de la semaine ou un travail qu'on a fait. Et effectivement, notre priorité, c'est l'ordre du jour en amont, comme ça on peut préparer la réunion. Et ça évite d'arriver en fait sans savoir pourquoi, d'avoir préparé les sujets. Donc on n'arrive pas en réunion en découvrant le sujet. On a préparé. Et du coup, en une demi-heure ou une heure maximum, on est capable de gérer un temps de travail en mode de brainstorming. On divise en général, on divise l'équipe en deux et on rentre en deux sous-salles de façon à pouvoir vraiment travailler de façon efficace pendant une demi-heure. Et autrement, on a une demi-heure d'échange sur les objectifs de la semaine, les quick wins qu'on a pu obtenir cette semaine-là et les priorités pour la semaine suivante. Donc voilà, et tout le reste se fait de façon asynchrone. Donc nous aussi, on est complètement friands des outils type Slack, notre Google Drive, etc., où on va retrouver tout ce dont on aurait besoin pour pouvoir travailler. Et le temps en commun est limité au maximum. Par contre, on a quand même besoin de se retrouver physiquement, nous aussi, à des moments clés, parce que même si on est 100% en télétravail, on fait le choix de se retrouver une fois par trimestre physiquement pour vraiment travailler sur des sujets de fond qui vont du coup permettre d'avancer et de créer de la convivialité. Parce que c'est vraiment les deux pendant. C'est-à-dire que le télétravail fonctionne s'il y a un moment on arrive à maintenir des espaces où on va pouvoir se retrouver humainement.
Alors, c'est une très bonne transition pour la partie asynchrone, justement, c'était le deuxième chapitre de ton e-book sur la communication asynchrone. C'est vrai qu'il y a pas mal de dérives là-dessus, effectivement. Donc là, tu parlais de la vidéo pour contrer un peu ce problème au niveau des textes. Finalement, toi, quelles sont donc les autres astuces chez Clint pour faire une bonne com asynchrone?
Alors, il y en a plusieurs. Déjà, il faut quand même arriver à essayer d'identifier ce qui nécessite d'être en asynchrone et ce qui nécessite de se voir. C'est déjà il y a un premier filtre à faire. C'est comment arriver. Et finalement, il y a presque une sorte de pyramide de Maslow à essayer de créer, qui est de dire, dans telle typologie de cas, on va favoriser une communication asynchrone sur tel outil. Si on a un niveau d'urgence qui est beaucoup plus élevé, on va utiliser d'autres canaux et d'autres façons de faire. Et donc, on a créé finalement une sorte de pyramide qui permet à tout un chacun de savoir quelle méthodologie à appliquer pour quel type de besoin. Et on se rend compte que c'est assez facile finalement de trier entre ce qui va pouvoir être asynchrone ou non. Du coup, on a créé une base de connaissances internes qui permet à tout le monde en fait de se référer à ça pour voir quelles sont les règles de communication interne de l'agence. Donc, on utilise Notion chez nous et on va retrouver justement toutes les typologies de demandes, toutes les typologies de besoins, le canal préféré et les différents prérequis, les standards à utiliser pour pouvoir réaliser une communication qui soit la plus adaptée possible. On a essayé aussi de faire en sorte de, pour que ça fonctionne, de s'adapter aussi à ce que les gens ont pour habitude, en tout cas ce qu'ils vont apprécier comme moyen de communication. Il y a des gens qui ont énormément de mal à l'écrit et qui sont pourtant des super orateurs. Et il y a des gens qui sont des super orateurs et des gens qui ne sont pas des super orateurs et qui sont super doués à l'écrit. Et donc, il faut aussi essayer de prendre en compte ça. Je pense que c'est hyper important à partir du moment où tout c'est comme une réflexion de communication globale, d'adapter toujours son message à son public. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire.
Excellent. Anne-Sophie, du coup, chez nous, c'est un peu moins organisé, je pense, cette partie-là. Enfin, du moins, c'est moins structuré.
C'est moins structuré. Nous, en fait, on utilise Slack pour le coup et on a créé des canaux, en fait. On fait beaucoup plus par écrit que par vidéo, ce qui implique de vraiment choisir ses mots aussi et de bien avoir réfléchi en amont à ce qu'on avait envie de dire, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, ça demande de se poser par rapport à ce qu'on fait et de se poser dans la catégorie du sujet qu'on veut traiter. C'est-à-dire que nous, on s'est créé des rubriques pour les moments fun, pour les problèmes techniques, pour les sujets sur les objectifs, l'atteinte des résultats de la semaine. Donc, on a des canaux comme ça dans lesquels on classe en fait chaque communication, ce qui permet surtout de retrouver l'historique et donc d'éviter de dire c'était où, tu peux me renvoyer le fichier, on a tout au même endroit et on s'attache à répondre dans les fils de discussion sur chacun des sujets qu'on peut avoir.
J'ai juste effectivement soulevé un point sur les fils de discussion, justement. Je pense que c'est un grand débat dans toutes les entreprises. Il y a ceux qui répondent dans les channels et ceux qui répondent dans le fil. Chez nous, on n'a pas tellement trouvé la solution de faire en sorte que tout le monde fasse toujours le fil, même si on essaie à chaque fois de reprendre un peu les gens pour aller répondre dans le fil. Vous, comment vous faites chez Clint pour faire en sorte d'éviter ça, d'éviter le gros A?
On essaie vraiment d'écrire tous nos standards, d'expliquer, d'avoir une base de connaissances commune pour que tout le monde sache ce qu'il faut faire, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Malheureusement, on n'a pas trouvé d'autres moyens que de faire un peu la police, de dire à tout le monde qu'il faut utiliser les threads au maximum, donc les fils de discussion au maximum, de limiter les messages directs au maximum aussi, parce que ça peut poser des problèmes de communication par la suite. Essayer vraiment d'expliquer et de montrer quand est-ce qu'on est disponible ou pas, parce que ce qui se passe sur les outils de communication, chat, etc., c'est que on a tendance à vraiment attendre tout de suite des réponses à nos questions. Donc il y a tout un tas de problématiques comme ça qu'on essaie de traiter, et malheureusement on n'a pas trouvé grand chose pour contrecarrer ça, à part créer une base de connaissances et faire un peu la police quand même.
Qui fait la police du coup? C'est les personnes naturelles entre elles, ou finalement c'est...
En fait, on s'est rendu compte que ça avait tellement d'impact sur tout le monde que tous ceux qui ont compris l'intérêt de répondre dans les fils, tous ceux qui ont compris l'intérêt de cette bonne pratique-là, bah, finalement jouent un peu ce rôle et du coup, c'est pas incarné par une seule et même personne. C'est vraiment un ras-le-bol un peu global d'une information qui est complètement éclatée dans plein d'endroits différents et au final, on n'arrive pas à retrouver ce qu'on est venu chercher. Donc, finalement, au fil du temps, on se rend compte qu'on embarque de plus en plus de monde dans cette bonne pratique et que de plus en plus de monde veille à ce que ça soit respecté.
Et c'est hyper intéressant parce que c'est un petit sujet, mais à mon avis, qui est un super critère pour savoir la maturité de la boîte dans sa transformation en étant tous à distance. Et est-ce que toi, enfin, ça fait donc 6 mois que vous êtes sur ce nouveau framework ou…
Ça fait un petit, bon, je sais plus exactement, mais oui, ça, un peu avant le premier ouais. confinement. Ça fait 6-7 mois.
Et du coup, même au bout de 7 mois, vous avez encore certaines parties du coup, qui ne sont pas encore totalement assimilées par tout le monde, non, j'imagine.
Ça va vraiment mieux là depuis quelques temps. Et je dirais que les écarts arrivent. Même moi, ça m'arrive de faire un écart là-dessus. Généralement, je supprime mon message et je le remets au bon endroit juste après. Mais globalement, la pratique est plutôt bien ancrée parce que voilà, c'est une sorte de rituel et il faut quand même un peu de temps pour que ça marche. Mais effectivement, comme tu le dis, je pense que ça atteste du niveau de maturité des gens sur la pratique du télétravail et que c'est un bon moyen de savoir si on est sur la bonne voie ou pas, si on voit que l'information est difficile à aller chercher, c'est qu'on a encore plein d'axes d'optimisation à mettre en place.
Dans les bonnes pratiques, c'est aussi de le dire aux nouveaux arrivants, en fait. C'est d'avoir une forme de do and don'ts pour les nouveaux arrivants, parce que c'est des petites choses, en fait, mais quand tu ne te les as jamais dites, tu ne le sais pas forcément. Et du coup, c'est compliqué de comprendre comment ça fonctionne, dans quel canal il vaut mieux poser sa communication, sur quel sujet, comment, est-ce que je réponds, est-ce que je mets des émoticônes, est-ce que j'ai le droit de faire une blague ou pas, ou est-ce que là, c'est un canal où je dois vraiment être super sérieux. Donc, c'est vraiment des petites choses, mais des règles de vivre ensemble finalement qui sont super importantes de partager et d'avoir décrites quelque part en mode référence pour que on s'assure que tout le monde les applique finalement et les adopte.
En fait, nous, ça fait vraiment partie de notre onboarding. C'est-à-dire qu'on a un outil qui s'appelle Asana qui permet de suivre les tâches de chacune des personnes à l'agence. Et quand on est un nouvel arrivant, on a un bundle de tâches qui nous est attribué au tout début, qui est la prise en compte et de rediriger finalement les nouveaux arrivants vers tous les contenus qui sont extrêmement importants de connaître et de maîtriser. Pour pouvoir interagir avec l'équipe. Donc, on s'assure effectivement que tout le monde ait vu les bonnes pratiques et on n'hésite pas de temps en temps à refaire des points avec les nouveaux arrivants, mais aussi avec les anciens, remettre un petit peu de théorique et reparler de tous ces sujets-là de bonnes pratiques.
Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est la partie documentation finalement qui doit se faire au fur et à mesure. Vous finalement, vu que vous avez d'un coup dû documenter beaucoup de choses à ce moment-là, comment vous vous y êtes pris pour basculer les gens vers, enfin, est-ce que déjà vous avez changé d'outil de documentation à ce moment-là ou est-ce que vous êtes resté sur le même et vous l'avez simplement fait grossir?
On est resté sur le même outil, on a fait le choix de Notion et on l'a juste fait évoluer. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait plein de petites choses comme ça qui pouvaient être des petits cailloux dans la fluidité de nos process et de notre communication et qu'à chaque fois qu'on rencontre un problème ou qu'on rencontre quelque chose d'un peu gênant, ben on a pour devoir tous d'être à l'initiative d'y apporter une solution et de créer un document de référence qu'on appelle un standard chez nous et de créer des standards pour que tout le monde puisse se les approprier s'il fonctionne. Donc ça se fait au quotidien en fait. Peut-être qu'en ce moment même, les équipes sont en train de refaire un standard. On a fait un webinar ce matin. Elles sont en train de refaire un standard sur comment faire un meilleur webinar que celui qu'on a fait, etc., etc. Et c'est vraiment une pratique qu'on essaie de d'avoir. C'est comment on devient une organisation auto-apprenante. Et comment tout le monde peut être à l'initiative d'une bonne idée et de transformer une problématique en opportunité et de diffuser la connaissance si ça marche.
Trop bien. Ben, merci pour ce retour sur cette documentation. Effectivement, c'est chez nous, chez Dirox, peut-être Anne-Sophie, tu peux en parler.
Donc nous, on a un drive sur lequel sont déposés l'ensemble des documents avec, là encore, une structure de ce drive. Donc, on essaie de poser les documents selon des classifications qui sont du coup partagées, accessibles à tous et qui permet une recherche assez facile parce que finalement, avec un contrôle F, on arrive à retrouver par mots-clés l'ensemble des choses. Donc, on n'a plus à se rappeler l'arborescence pour être sûr de savoir où est posé le bon document qu'on retrouve évidemment jamais autrement. Donc, voilà. Donc, le drive, nous, c'est vraiment l'essentiel de notre base et puis des liens qui sont insérés du coup dans notre documentation de base et notre guide qui nous sert tous les jours en fait. Et à chaque étape, on a les liens vers les sujets utiles ou les documents utiles qui vont nous aider pour la phase de pré-recrutement, la phase commerciale ou la phase d'onboarding d'un candidat.
C'est vrai qu'on n'a pas de vrai outil de documentation à part un drive et c'est un vrai sujet en interne. On en a pas mal parlé. Et en fait, c'est ce passage d'une ancienne documentation à une nouvelle qui est très difficile. Parce qu'on est habitué à aller chercher l'information à tel endroit. Et ce passage-là n'est pas évident, même, enfin, et surtout quand on est à distance, parce qu'on ne peut pas dire stop, on arrête tout, on change. En fait, tout le monde travaille en même temps, en parallèle surtout. Donc, c'est très dur de faire un stop and go, contrairement à avec une équipe physique, quoi. Donc, ça, c'est un côté, effectivement, sur lequel on a beaucoup à apprendre encore.
Je pense que tout ça peut s'aborder de manière très itérative. En tout cas, nous, on a quand même vécu un changement d'outil à un moment parce qu'on avait un peu la même pratique que vous avant de passer sur Notion, il y a bien longtemps. Mais globalement, on a fait une passation douce. Ça a pris énormément de temps. Il y avait de l'information un peu partout. Ça a été un peu chaotique au début, mais on a finalement fonctionner par bloc, c'est-à-dire que dès qu'on avait, je sais pas, par exemple, les process commerciaux, bah, on les a migrés dans un premier temps, et ensuite on a migré les process RH, etc. Et on a fait ça par étapes. Mais effectivement, je comprends la difficulté de le faire du jour au lendemain. Mais effectivement, c'est pas possible.
Mais si tu me rassures sur le fait qu'effectivement, même vous, finalement, bah, c'est pas évident, et il y en a partout pendant au moins quelques mois, bah, c'est rassurant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de méthode miracle.
Non, il n'y en a pas.
Alors du coup, il y avait un troisième chapitre dans ton e-book, c'était pour rester focus sur les tâches importantes. Alors ma première question, c'est parce qu'en remote, vous étiez moins focus sur les tâches importantes ?
Je ne dirais pas qu'on était moins focus. En fait, je dirais que le fait qu'on ne soit pas tous au même endroit, on avait cette espèce de sentiment de culpabilité de ne pas interagir avec les autres. Et que du coup, ça a créé un volume de réunions colossal. Qu'on n'avait pas forcément avant puisque on était à notre poste et puis on savait que s'il y avait un besoin on pouvait nous solliciter en venant derrière nous. Finalement ce volume là de réunions, on s'est dit bah, comment on peut essayer de le minimiser et comment on peut essayer de faire en sorte de trouver un moyen qui soit un standard de l'entreprise pour qu'on sache quand on peut pas déranger quelqu'un. En fait, un des aspects qui est absolument génial dans le télétravail, c'est qu'on a plus ce côté de quelqu'un qui peut venir nous embêter pendant qu'on est quand on est devant une tâche, enfin quand on a une tâche à remplir. Donc en fait, ça c'est une vraie force. Maintenant, il faut prendre soin du coup de son agenda et de faire en sorte de caler ce qu'on appelle chez nous des plages de temps qui vont être de deep work, c'est-à-dire vraiment une plage de temps dans la journée qui est impossible d'interrompre. C'est-à-dire vraiment, on rentre dans un tunnel, on coupe les notifications de son téléphone, on coupe ses notifications navigateur et on est focalisé à créer de la valeur pendant un certain temps. Et donc ces plages-là, elles sont sur tous les agendas des salariés chez nous. Et donc on est en capacité de savoir si quelqu'un est en deep work et si quelqu'un est en deep work, on respecte ça et on n'essaie pas du tout le déranger. Donc qu'est-ce qui peut être de l'ordre du deep work versus quelque chose qui serait pas du deep work? Par exemple, regarder sa boîte mail, pour nous, c'est pas quelque chose qui nécessite d'être en deep work. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire un peu au fil de l'eau dans la journée. On essaie de booker quand même des plages de temps pour le faire. Mais ça, c'est quelque chose qui ne nécessite pas une attention toute particulière. Mais par contre, développer, on a des développeurs, développer, ça nécessite de ne pas être interrompu. Dès qu'il y a une interruption, c'est énormément de temps pour le cerveau pour se remettre en selle. Et du coup, il est extrêmement important d'avoir des plages de temps qui sont respectées et qui sont un peu des moments où on est tranquille. On part du constat qu'il faut prendre soin de son cerveau dans sa globalité. C'est éviter le nombre de calls par jour, éviter d'enchaîner toujours et toujours de nouvelles réunions, de regarder ses notifications constamment, d'oublier de prendre des pauses. Tout ça, on essaie de le mettre de côté pour qu'on soit focalisé par moment à créer de la valeur et être par moment complètement accessible pour le reste de l'équipe.
Bah, c'est pareil. En fait, c'est pas parce que je suis une femme que pour le coup, le cerveau est vraiment multitâche. Il a vraiment été prouvé que c'était super fatigant en réalité de passer d'une tâche à l'autre. Et c'est vrai que quand on a 10, 15, 20 onglets d'ouverts, la tentation d'aller vérifier son LinkedIn, le dernier message arrivé, la notification Slack, ça peut tomber de partout. Et en réalité, c'est extrêmement chronophage et extrêmement énergivore. Donc, effectivement, moi aussi, je me suis organisée de façon à avoir à couper certains moments toutes les notifications, à avoir des plages horaires où je sais que je fais certaines choses en particulier. Donc, moi, c'est pour le coup mon média, ma prospection commerciale, mes vidéoconf avec les candidats. J'essaie de créer des plages sur lesquelles je vais faire ça et de m'y tenir. C'est-à-dire que je ne commence pas quelque chose et puis je pars sur autre chose et je reviens et voilà. Donc, j'essaie vraiment d'avoir des moments où je suis focus. Et puis, c'est aussi une organisation, en fait. C'est-à-dire que tous les matins, le lundi matin, en début de semaine, je me fais mon organisation de la semaine avec globalement mes grandes plages et puis les principaux rendez-vous que j'ai à caler. Et puis, tous les matins, je vérifie mon organisation de la journée. Et du coup, ces fameuses plages pendant lesquelles je ne dois pas m'en aller. Et je me prévois aussi mes pauses, parce que c'est le deuxième effet qui se coule. C'est vraiment pour arriver à être concentré comme ça ou à être en visio et enchaîner 3 ou 4 visios, c'est d'arriver à avoir des pauses qui physiquement vont détendre les yeux, vont détendre le dos, vont détendre le cou. Donc, essayer, ça aussi, ça s'organise en fait, parce qu'autrement, c'est très facile de se faire prendre toute l'après-midi et de ne plus bouger de sa chaise. Donc, une vraie attention à introduire ça dans l'agenda aussi.
Et c'est ça. Et Jacqueline, comment vous faites-vous de votre côté pour finalement bien planifier votre semaine? Parce que c'est vrai que chez Digirox, nous, on est vraiment très axé sur, en début de semaine, on dit ce qu'on veut atteindre et en fin de semaine, du coup, on fait une checklist et on dit si on a réussi à le faire ou pas. Du coup, effectivement, tous les matins, on vérifie si c'est cohérent par rapport à ce qu'on a à faire. Comment chez vous, vous faites?
Alors, chez nous, on n'a pas, on va dire qu'il n'y a pas de règle à proprement parler. Ça va être très différent d'un type de profil à l'autre. Les développeurs vont avoir beaucoup de moments de deep work, moins de moments accessibles avec des capacités d'interruption. Moi qui suis plutôt sur une partie commerciale, je vais avoir beaucoup plus de rendez-vous, beaucoup plus de visio et du coup moins de plages de deep work. Donc c'est très variable, on n'a pas de règles, vous êtes bien plus structurés que nous à ce niveau-là. Puisque dans notre organisation, finalement, on a un outil qui nous donne nos tâches, on a un outil qui nous donne nos délais de production pour des dispositifs en question, mais c'est à tout un chacun finalement d'organiser sa semaine pour atteindre cet objectif-là, mais ça, c'est effectivement pas sur une échelle de temps aussi bien cadrée que la vôtre.
Et bien pour terminer, on va parler de fun du coup, tu m'as dit que, enfin hyper intéressant, tu dis que tes bureaux maintenant ils vont avoir une autre destination, un autre usage, alors quel est-il ?
En gros, nos bureaux, ils ont un nouvel usage qui est, un, ils sont dédiés aux workshops qui nécessitent d'être en présentiel, donc avec des clients ou entre nous. Et sinon, c'est un lieu de retrouvailles. Donc effectivement, on fait ce qu'on appelle le Clean Together, qui est un moment où on se retrouve tous en physique. Alors un peu moins avec les conditions actuelles, mais en tout cas, c'est l'objectif quand même de ce lieu-là, c'est de se retrouver. Et par exemple, on a un four à pizza au feu de bois, on a des consoles, on a de quoi animer des ateliers un peu fun de co-création. On a on a équipé finalement le lieu de plein de choses qui nous donnent envie de se retrouver à un moment donné et puis qu'on passe un super bon moment tous ensemble. C'est moins axé travail, c'est vraiment plus le côté de recréer du lien et de conserver la culture. C'est vraiment super important pour nous parce que la principale crainte des organisations aujourd'hui concernant le télétravail, c'est de briser l'ADN de la boîte, de briser sa culture, etc. Et nous, on se rend compte que notre culture, elle est encore plus forte parce que ces moments de retrouvailles-là, étant donné qu'ils sont moins réguliers qu'avant, ben on y retrouve encore plus de plaisir et on est encore plus heureux de se retrouver et de partager des moments ensemble.
Et finalement, ce sont des moments, ces moments, on va dire, de jeu, c'est le soir ou c'est après un atelier de travail en journée, enfin, comment vous arrivez à mixer ça?
Généralement, on fait. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à partager, donc qui va expliquer un nouveau process, qui va expliquer une référence qui nous, enfin un projet qui aura été vraiment hyper 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 intéressant, etc. Donc il y a toujours une ouverture, un partage avec ça, un état des lieux de la société. Quelles sont nos performances, quels sont nos gros enjeux, quelles sont nos envies et beaucoup d'échanges autour de ça. Et ensuite, ça va dépendre des thématiques. Des fois, on va pouvoir se dire, bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas co-créer un produit qui fait quelque chose? Ça peut être n'importe quoi, hein, sous forme d'un petit hackathon. Ou alors, tout simplement, des bons jeux de société, parce que les jeux de société, c'est quand même bien sympa et tout le monde aime bien ça chez Clint. Et on va faire des jeux de société. Et puis, quand on est un peu plus tard le soir, un apéro, un resto, quand c'est possible.
Ok. Merci. Et Sophie, du coup?
Alors, nous, on a notre café team tous les lundis à 14h30. Donc, c'est le moment où, voilà, on sait qu'on se retrouve avec notre tasse de thé, notre tasse de café, même si elle est virtuelle. Enfin, elle est très réelle chez chacun d'entre nous, mais elle est très virtuelle pour l'ensemble des rockers. Et puis, on a surtout notre digito une fois par trimestre où on essaie de se retrouver pendant 3-4 jours dans une capitale européenne ou française pour pouvoir travailler ensemble, recréer du lien, faire des activités effectivement sportives ou agréables ensemble, ce qui permet vraiment de tisser ce lien et de maintenir ce lien. Et puis, on est un peu tous répartis partout en France. Donc, voilà, quand on a l'occasion de se croiser pour des vacances ou pour… Il y a aussi ce plaisir-là de se dire, on se fait un signe, on passe se voir et ça permet d'incarner la relation. Et ça, c'est quand même super important, encore plus quand on est 100% en télétravail.
Ouais, c'est vrai que nous, on a fait le choix… finalement, de mettre le budget bureau dans un budget voyage. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu dur.
nous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on a fait le même constat. On a quand même réduit le budget bureau parce qu'on n'avait plus besoin que tout le monde travaille en simultané à un seul endroit. Donc, on a bien réduit ce poste-là. Et effectivement, là, ça commence à tirer un peu pour les équipes parce qu'on a vraiment tous envie de se faire un bon voyage, un bon ski, un bon… vraiment un bon moment off-site et malheureusement c'est pas encore possible mais ça va arriver très vite j'espère.
Comment est venue l'idée des off-site chez Clint? C'est parce que comme il n'y avait plus les bureaux, les équipes ont dit ce serait bien de faire un off-site ou c'est plutôt vous qui avez pris les devants?
Non, on a pris les devants. Après, on a quand même nommé une équipe qui est là, qui est désignée pour l'année, qui est une équipe happiness, qui est composée de ça peut être n'importe qui dans la boîte, et on a un budget qui est associé. Et globalement, cette équipe fait ce qu'elle veut. On n'a pas notre droit de regard là-dessus. L'objectif, c'est qu'elle nous concocte des trucs super sympas, et elles l'ont fait à plusieurs reprises. On a reçu des cadeaux pour garder la pêche en télétravail. On a reçu des petits goodies. Elle s'occupe vraiment de plein d'attention. Cette équipe-là, elle s'occupe de ça, quoi, de créer plein d'attention. Et demain, ces moments off-site, quand on va pouvoir le faire.
Ce sont des personnes qui sont élues.
Elles ont été élues, ouais. De mémoire, ça avait été un type form, un formulaire qui avait été envoyé de mémoire. Et du coup, elles animent ce truc-là et c'est toujours plein de surprises pour tout le monde.
Elles sont combien?
C'est 3 personnes.
Trois personnes. Ok, c'est une super idée, excellent à partager. Bon, ben, merci beaucoup, Alex, pour ton partage et ton retour d'expérience. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, vous deux, ou Alex ou Anne-Sophie?
Non, pensez à soi. À toi et faire super attention à faire du sport, à sortir, à effectivement trouver un moment de fun et de détente pour concilier les deux. Et autrement, c'est un super moyen pour concilier vie perso et vie pro, donc tous en télétravail.
C'est clair, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Merci, merci beaucoup de m'avoir invité. Et voilà, je rejoins le constat, c'est faut faire attention à soi en télétravail, parce qu'on peut avoir tendance de travailler beaucoup, beaucoup plus. Je ne crois pas que ce soit l'idée. Je crois que l'idée, c'est quand même d'arriver à garder cette frontière entre vie perso et vie pro, et que c'est du rôle de l'entreprise et de tout un chacun de veiller à ça, et effectivement, conserver plein de bons moments, du sport, effectivement. Des moments de retrouvailles. Je pense que c'est super important et que le télétravail, ça reste quand même bourré, bourré d'avantages.
Eh bien, merci beaucoup, Alex. Donc, évidemment, si vous avez besoin d'aide pour créer un service ou un produit digital, ben, pensez à Clint. Et si vous cherchez des talents pour vous aider pour vos équipes, eh bien, il y a Digirox pour le recrutement. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Et à bientôt.
À bientôt.
Merci.
Merci à vous.